L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Françoise Dubourg de la CIMAD pour vous parler de la Journée internationale des migrants. Alors, ce mois de décembre, il y a déjà eu plusieurs manifestations concernant les migrants, puisque il y avait, je crois, le 1er décembre déjà sur la Comédie, une manifestation qui protestait contre les expulsions Dublin. Le 1er décembre également, il y avait une rencontre à la croisée des chemins dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale où des migrants étaient reçus à un repas avec un échange avec tous ceux qui s'intéressent à leur sort à Montpellier. Et puis le 8 décembre, eh bien, c'était une des manifestations pour marquer le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, où en sommes-nous en ce moment pour la situation des migrants ?
Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Et la situation des migrants et l'immigration en général sur la France continue à progresser assez fortement en 2018, puisque à fin octobre, on constatait une progression de 20% par rapport à la même période, donc des 10 premiers mois de 2017. Alors les nationalités ont quelque peu varié, mais peu, c'est-à-dire qu'en tête, on trouve maintenant les Afghans, suivi par toujours l'Albanie, la Géorgie, qui sont tout de même des pays considérés comme des pays sûrs au regard de la loi sur l'immigration, en France en tout cas. Et malgré tout, ces populations continuent à venir chercher une protection en France. Les Afghans, eux, il faut savoir quand même que les pays du Nord, comme la Norvège, le Danemark, qui ont hébergé pendant un certain temps les Afghans, rejettent cette protection, enfin les renvoient. Alors les renvoient sur le premier pays dans lequel ils sont passés, ou carrément risquent de les renvoyer en Afghanistan. Il y a déjà des précédents, ça a été signalé de nombreuses fois. Et donc la France considère à l'heure actuelle que, évidemment, renvoyer des Afghans en Afghanistan, c'est totalement inhumain. Et donc, regarde ces retours vers la France d'un œil bienveillant et leur accorde la possibilité de déposer une demande d'asile en France. Voilà, donc ça, ce sont les derniers éléments. Bon, bien évidemment, après, au niveau des autres populations, on a toujours...
Africaines, toujours.
La population sud de l'Afrique subsaharienne. Donc, beaucoup de Guinéens, quelques Ivoiriens, très peu de Maliens. Mais après, on a effectivement les populations de l'Est, de l'Afrique, avec le Soudan, toujours, l'Érythrée, l'Éthiopie. Bon, même si maintenant l'Érythrée communique avec l'Éthiopie et où on a effectivement
un apaisement de la situation.
Voilà, un apaisement de la situation. Bon, est-ce que ça durera longtemps ? On demande à voir, mais enfin, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de se passer pas trop mal. Donc... par rapport à l'impact de cette évolution de l'immigration sur Montpellier, par exemple, on peut constater qu'on a toujours un afflux de demandeurs d'asile qui attendent pendant 3 semaines en général avant de pouvoir passer à la préfecture. Enfin, 3 semaines, c'est souvent dans le meilleur des cas, avant de pouvoir enregistrer leur demande à la préfecture et savoir s'ils vont pouvoir déposer leur demande d'asile en France ou repartir dans le premier pays où ils ont déposé leurs empreintes, comme le prévoit le règlement de Dublin. Donc, pour tous ces gens qui veulent déposer leur demande d'asile et qui attendent 3 semaines, c'est 3 semaines avant de passer à la préfecture, sans rien, sans aucune aide, sans hébergement, sans aide financière, avec des enfants également. Il n'y a pas de traitement particulier, sauf des cas très particuliers de vulnérabilité, on va dire, hein, avec des enfants en très bas âge. Et donc, une fois qu'ils sont passés à la préfecture, ces gens-là doivent encore attendre 45 jours, entre 40 et 45 jours, pour avoir la première aide financière. Donc vous voyez que ce sont des situations extrêmement critiques qui font que Montpellier est complètement saturé au niveau de l'hébergement d'urgence, que on a des demandes sans arrêt, et même si la CIMAD n'a pas vocation à s'occuper d'hébergement, on est bien obligé aussi de travailler avec les associations qui s'occupent des problèmes d'hébergement, de regarder aussi au niveau d'intervenir aussi au niveau des squats, qui sont nombreux à Montpellier.
Alors, combien de populations environ dans les squats ?
Dans les squats, c'est difficile, bien évidemment, de chiffrer, mais on peut le chiffrer autour de 400 à 500 personnes qui sont dans les squats actuellement. Alors, des squats de plus ou moins grosse taille, hein, comme le squat de l'Utopia, les anciennes archives, où il y a actuellement 270 personnes.
Hein. Oui, donc, et où d'ailleurs, paraît-il, les services administratifs envoient même des
absolument,
personnes.
Absolument, absolument, absolument.
Donc c'est dire que ces squats sont quelquefois bien reconnus.
Tout à fait. Et d'ailleurs, au niveau d'un de ces squats qui devait être, qui menaçait d'être évacué, le squat de la SNCF, il y a eu des propositions. Donc la préfecture et notamment le directeur de cabinet a eu une oreille attentive pour essayer de trouver des solutions, mais bon, il a bien fallu se rendre compte que malheureusement, au regard du nombre de personnes qui étaient hébergées dans ce squat, la préfecture n'a proposé qu'un nombre très limité, c'est-à-dire sur 40 personnes à peu près qui pouvaient prétendre à avoir un hébergement parce que c'était des demandeurs d'asile qui étaient en cours de procédure, il y a eu 8 propositions. Donc ça traduit bien que le fait que, il y a une volonté affichée de vouloir régler le problème, mais il n'y a pas les moyens derrière. Voilà. Hein, donc, et l'hébergement d'urgence à Montpellier est complètement saturé.
Voilà. Et comment se fait le choix à ce moment-là ?
Le choix de l'hébergement, c'est-à-dire que tous les célibataires, les hommes célibataires, sont à la rue. Ça, ça existe déjà depuis un certain temps et ça continue, bien évidemment. Donc, eux en priorité. Après, évidemment, s'il y a des gens malades, ceux-là sont hébergés en priorité par le 115. Donc, c'est l'hôtel. L'hôtel avec des enfants en bas âge, c'est vraiment très difficile, hein, parce qu'on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas avoir avec des enfants en bas âge préparé le strict nécessaire. Hein. Et donc, après, les choix se font en fonction de la vulnérabilité. Voilà. Hein, donc, les gens malades, les fameux seuls avec des enfants en bas âge, mais plus ça va, plus le bas âge diminue. Hein. C'est-à-dire qu'avant, jusqu'à 3 ans, on pensait que, on pouvait prétendre à avoir un hébergement, alors que maintenant, même avec des enfants de moins de 3 ans, c'est pas suffisant. Et on se retrouve à la rue. Donc, ce sont des situations extrêmement dures, parce que l'hiver est là déjà depuis un petit moment, la pluie, le froid, et surtout des gens qui n'ont pas de moyens pour qui doivent faire appel aux associations caritatives pour manger, pour subvenir à leurs besoins. Voilà.
Oui, donc un grand besoin de pouvoir régler des situations chaque jour.
Tout à fait, tout à fait.
Alors ça correspond évidemment avec une situation générale, puisque le HCR a déclaré qu'il y avait plus de 68 millions et demi de personnes qui ont été déplacées de force en 2017. Donc ça continue ce flux.
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir quand même que sur ces 68 millions, il y a beaucoup de populations qui restent. Alors, il y en a beaucoup qui sont justement déplacées à cause de guerres. On pense bien évidemment à la Syrie, mais pas que. Il y a le Soudan également, voilà, et l'Afghanistan, le Yémen, etc. Et ce qu'il faut quand même souligner, et qu'on souligne à chaque fois, c'est que l'essentiel des populations qui sont contraintes de fuir leur pays restent autour de ce pays. Hein. Donc on a la Turquie, on a le Liban par rapport à la Syrie, où les populations attendent une amélioration de la situation. Ceux qui migrent, en gros, ce sont quand même des gens qui ont plus de moyens que ceux qui restent sur place, ou les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer et qui, elles aussi, vont aller au plus près du pays qu'elles ont quitté.
Oui, au fond, la quantité de réfugiés qui se dirigent vers l'Europe est bien moindre que celle qui va ailleurs, notamment en Afrique.
Tout à fait, autour. Donc les migrations plus locales, disons. Hein. Voilà.
Alors, on va écouter une musique. Je crois qu'il s'agit d'une musique congolaise.
Oh Nzambe, au salabo mouiwa moto, motoroya okutana malade, mondelepe asali kisi, komoto abika. Vraiment, ce que j'ai dit à Mbongo, je voulais profiter pour la famille de Salignons. Nzambe, pour la famille de Liwa, ah, somme. Nandi Magite.
Testament, bane kona kotanga na kozongelai. Maloba ya boule, baninga na kotanga na kolelai. Nazangi na mokili, oba fami bo salinga imabe. Masia na salafiele wapio mokili esili singa lolendo lelo nandimi. Testament, bane kona kotanga na kozongelai. Maloba ya boule, baninga na kotanga na kolelai. Nazangi na mokili obine mibole singa poison. Luambo na salafiele wapio mokili esili singa lolendo lelo nandimi. Liwa ya boule, sangolo kola nkake na matoye. Epe singa liboma, nazangi likambonga na sala. Mbongwe loko pamba, eko kiko somba liwate. Ya bongo leo, lobina pasio talinga oseki. Opeke singa ikolela eka sola kakinga okobika. Zoko yeba koza liko kende, oko singa neko kosa. Nake ikolala yo kati motema, atali lo basuka jose omesho.
Alors je rappelle que je suis avec Françoise Dubourg de la CIMAD et que nous parlons bien sûr de la situation des migrants en France et particulièrement à Montpellier. Alors je citais le HCR qui bien sûr signalait tous les déplacements de population qui avaient eu lieu en 2017 et ce HCR avait envoyé un message aux gouvernants sur le droit des réfugiés justement, demandant qu'il y ait un stoppage au délit d'aide humanitaire et au harcèlement de migrants parce que non seulement on ne veut pas les accueillir mais ceux qui arrivent ils sont maltraités, comme vous l'avez dit. Alors, il faut dire quand même qu'il y a eu récemment, là, en jurisprudence, la relaxe du militant Cédric Kérou, qui était cet agriculteur qui avait porté de l'aide aux migrants et qui avait été condamné en août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 4 mois de prison avec sursis pour avoir facilité la circulation et le séjour de migrants. Et c'est allé jusqu'en cour de cassation. Et cette fois-ci, justement, la cour reconnaît justement le principe de fraternité.
Oui, ce qui est rassurant quelque part, mais on a encore les sept accusés de Briançon, dont le cas n'est pas traité, enfin est traité malheureusement dans le mauvais sens, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés, mais voilà, il va y avoir un appel et on espère bien qu'on aura les mêmes conclusions que pour Cédric Héroux. C'est vrai que le délit de solidarité, c'est complètement antinomique, hein, délit de solidarité. Comment on peut inventer une chose pareille, voilà, alors que des gens, notamment ceux de Briançon, sont allés au col de l'échelle dans une période où il faisait très très froid, où ils ont récupéré des migrants qui avaient les pieds gelés, les mains gelées, et être condamnés pour avoir un geste d'humanité, tout simplement. À l'égard de ces populations, c'est vraiment inacceptable.
Alors, l'article de la loi Asile-Migration a quand même été modifié à la suite de cette...
Tout à fait.
De cet arrêt.
Oui, enfin, c'était déjà dans les tuyaux, hein. Mais bon, ce qu'il faut constater quand même, c'est que, effectivement, cette loi... cette nouvelle loi immigration qui intervient 2 ans après la précédente, qui déjà avait resserré un petit peu les possibilités pour les demandeurs d'asile d'obtenir une protection, va effectivement aller encore dans la restriction des droits. La CIMADE a fait toute une campagne là-dessus sur la chute des droits malheureusement la procédure, enfin la mise en place de cette loi va être effective à partir de janvier. Une autre loi, donc là, bon, je ne vais pas y revenir dessus, on en a déjà parlé, mais c'est effectivement le raccourcissement des délais pour déposer une demande d'asile. On passe de 120 jours à 90 jours. C'est l'utilisation de plus en plus fréquente du juge unique pour la CNDA, hein, la Cour nationale des demandeurs d'asile. Or, effectivement, le juge unique, ça ne présente pas toutes les garanties qu'on pouvait avoir quand on avait
plusieurs juges.
Voilà, oui. Hein, bien évidemment. Donc, on raccourcit les délais de recours, on raccourcit les délais de dépôt de la demande. Bien évidemment, tout va dans le sens de la fermeture des frontières que l'Europe s'évertue à renforcer de plus en plus, avec un déploiement de moyens à travers Frontex, avec des accords passés avec les gouvernements des pays limitrophes, comme la Libye, comme le Soudan, comme le Mali. Mais enfin bon, il y en a qui acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. Le Maroc, qui est en première ligne, et qui a renvoyé dans le désert des migrants qui étaient arrivés jusqu'au bord de la Méditerranée, avec l'espoir de pouvoir passer par l'Espagne. Actuellement, la frontière italienne avec le gouvernement actuel s'est fermée quasiment. Enfin, il y a beaucoup moins. Mais bon, on a quand même, sur les 15 dernières années, on a en gros 35 000 morts en Méditerranée, ce qui est quand même colossal. Donc actuellement, c'est l'Espagne, hein, qui est la nouvelle voie d'immigration vers l'Europe. Et donc, si dans un premier temps, l'Espagne a été effectivement plus accueillante, notamment vis-à-vis de l'Aquarius, vis-à-vis des bateaux qui récupéraient les gens en Méditerranée pour les sauver de la mort, peut-être que... Là aussi, le poids électoral, les choix politiques vont peut-être aboutir à des décisions du gouvernement qui vont restreindre justement toutes ces mesures qui, dans un premier temps, étaient favorables. Alors moi, je voulais parler aussi de, au niveau législatif, donc au niveau de, du règlement Dublin, d'une mesure qui est mise en place actuellement et qui consiste à régionaliser les procédures Dublin, donc les pôles de régionalisation de Dublin. C'est-à-dire que à partir de cette semaine, théoriquement, il va y avoir un seul, pour la région Occitanie par exemple, il va y avoir un seul endroit où on pourra traiter les procédures Dublin. Tous les gens qui sont passés par un premier pays où ils ont laissé leurs empreintes ou pour lequel ils avaient un visa, c'est la même chose, devront aller au bout d'un mois chercher leur attestation de demande d'asile, le renouvellement de l'attestation de demande d'asile à Toulouse. C'est-à-dire que même s'ils sont hébergés à Montpellier, ils devront aller à Toulouse pour avoir le premier renouvellement de leur attestation de demande d'asile. Bien évidemment, s'ils n'y vont pas, ils seront considérés comme étant en fuite.
Et comment y aller sans moyens ?
Voilà, comment y aller sans moyens ? Donc, il y a eu déjà deux expérimentations fin 2017 et début 2018 dans la région PACA et la région des Hauts-de-France pour mettre en place ce système de régionalisation. Et donc, il y a eu notamment des recours contre le fait d'obliger les gens à financer eux-mêmes leurs moyens de transport pour aller chercher cette attestation de demande d'asile. Et le Conseil d'État a tranché en disant que c'était l'État qui devait financer.
Ah, voilà. Alors comment obtenir ce financement ?
Alors, c'est là où effectivement le bas blesse, parce que du coup, ça risque quand même de faire des sommes qui non seulement ne sont pas budgétées, mais qui risquent de s'élever à des sommes assez importantes.
Hein. Et oui, mais qui voilà. va payer alors ?
Eh bien, théoriquement, c'est l'État.
Oui, mais
sauf que, ah ben, en mettant des billets à disposition, on le fait quand on les renvoie dans le premier pays, hein, on leur envoie un billet d'avion, ça s'appelle le routing, voilà, ils reçoivent un billet d'avion qui leur permet justement d'être renvoyés, on leur permet, qui fait qu'ils vont être renvoyés sans avoir à payer évidemment leur billet de retour. Hein. Donc pour aller chercher cette attestation de demande d'asile, c'est la même chose, il faudra mettre des billets à disposition. Et donc là ce qui a été un peu prévu, c'est que finalement, ben, s'ils sont hébergés ailleurs qu'à Toulouse, parce que la loi prévoit, enfin le règlement prévoit justement que les Dublinais, puisque tel est leur nom, devront être assignés à résidence dans un périmètre de 1 heure et demie, voilà, pas plus d'une heure et demie à partir de Toulouse.
Toulouse.
Voilà.
Ah bon, mais ça restreint, évidemment.
Voilà. Et donc, dans l'état actuel des lieux d'hébergement, il est absolument impossible d'héberger tous les Dublinais de la région Occitanie. Donc, on pense qu'il va y avoir des gens qui vont rester là où ils sont hébergés actuellement et qu'il y aura une délégation accordée à Montpellier,
services,
par exemple, pour pouvoir renouveler cette attestation de demande d'asile. Voilà, mais ça sont, pour l'instant, on n'a pas de pratique puisque ce n'est pas mis encore en place. Ça devrait commencer cette semaine-là. Hein. Voilà. Donc, l'objectif est clair, c'est raccourcir le délai d'expulsion pour les Dublinais, parce que jusqu'à maintenant, l'État suivait des statistiques d'OQTF, hein, d'ordre de quitter le territoire français. Mais là, ça ne suffit plus. Ce que l'État veut, ce sont des statistiques d'expulsion, de transfert. Donc, c'est le taux de transfert qu'on va suivre. Or, sur les deux régions expérimentales, pour l'instant, on n'a aucune donnée. On ne sait pas si le taux de transfert est supérieur avec cette procédure ou s'il est resté le même que précédemment. On peut supposer qu'il a augmenté, mais peut-être de manière assez marginale. Et donc, pour l'instant, on n'a pas communication de ces données. Donc, qu'est-ce qui va suivre par rapport à cette régionalisation, on est juste dans la période de transition et on pourra en reparler d'ailleurs d'ici 2-3 mois pour voir un petit peu comment ça se met en place et comment on peut aussi défendre les droits des gens qui vont être soumis à cette procédure d'expulsion, parce que l'objectif c'est de les renvoyer dans le mois qui suit leur passage au guichet unique des demandeurs d'asile. Un mois. Alors, il faut savoir qu'il y a des pays qui répondent très très vite, comme l'Allemagne, l'Espagne, les pays nordiques, voilà. L'Italie, elle ne répond pas, mais ça fait longtemps qu'elle ne répond pas, et donc il faut attendre les 2 mois prévus pour savoir que c'est un accord implicite. Mais on va utiliser au maximum les réponses qui se font rapidement et renvoyer ces gens-là très très vite. Voilà.
Et alors, pouvez-vous nous dire un mot du pacte de Marrakech ?
Alors, le pacte de Marrakech, oui, on en a beaucoup parlé, mais malheureusement, c'est un peu une grosse bulle, hein, parce que finalement, ça ne va pas changer grand-chose. C'est un pacte non contraignant, hein, on l'a beaucoup dit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il avait prévu ? Il avait prévu de rendre plus accessibles les filières légales de migration, rendre les périples migratoires moins dangereux, sauver des vies par une action internationale coordonnée, lutter contre les passeurs et la traite des personnes, mieux gérer les frontières, limiter le recours à la rétention administrative, renforcer la coopération consulaire. Mais aussi, une fois que les migrants sont arrivés dans un pays, leur assurer des services de base, ce qui est loin d'être le cas.
Et oui.
Actuellement, les moyens de s'intégrer, reconnaître leurs qualifications et éliminer toutes les discriminations. Et enfin, permettre aux migrants de contribuer au développement de leur pays d'origine, simplifier les emplois de fonds, faciliter leur retour en assurant la portabilité de leurs droits. Donc vous voyez que tout ça, c'est un catalogue de bonnes intentions, mais à partir du moment où il n'y a pas un cadre contraignant,
Ça ne change rien.
Ça ne va rien changer. Voilà. Hein, on verra. Enfin, je pense qu'on verra pas grand-chose justement sur les modifications que ce pacte de Marrakech, qui a fait couler beaucoup d'encre, va apporter. Voilà.
Voilà. Il faut aussi rappeler que la France, à ce point de vue-là, pour les droits. Par exemple, les travailleurs migrants n'ont toujours pas ratifié la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs étrangers.
Tout à fait.
Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire, même sur le plan...
Voilà. Donc, ce qu'on peut noter que ce pacte ne contient pas, hein, c'est le fait d'être un préalable à un afflux massif de réfugiés, par exemple. Hein, aucun moment le texte n'oblige un pays à ouvrir ses frontières
oui.
Ou ne formule de quotas de migration obligatoires. On se rappelle quand même que lorsqu'il y a eu cet afflux massif en 2015, il y a eu la fameuse histoire des quotas où la France s'était engagée à recevoir 120 000 personnes, elle devait en recevoir 30 000. En fait, on en a reçu 5 ou 6 000 de personnes qui étaient relocalisées, hein, les fameux relocalisés. Les familles syriennes que beaucoup de monde attendait, avec des volontaires qui réparaient des appartements, et on a attendu, et il y a des endroits où ils ne sont jamais venus. Donc, ce que ce pacte ne fait pas non plus, c'est créer un appel d'air mondial, hein, comme certains députés
le prétendaient,
hein, notamment Éric Ciotti. Mais en fait, c'est plutôt prendre en compte la réalité actuelle pour mieux l'accompagner. Mais on reste encore dans
les généralités.
Dans les généralités et la bien-pensance, on va dire.
Alors, pour tout cela, justement, il y a une manifestation prévue.
Tout à fait. C'est très proche, puisque c'est demain soir. Demain soir, 18 décembre, mardi 18 décembre, place sur l'esplanade du Pérou à 18h. Et donc, voilà, il y aura une ambiance festive, je pense, parce que tout le monde doit venir avec des petites lumières, des bougies, des frontales. Voilà, et il y aura une grande banderole pour rappeler justement le problème des migrations et le nombre de migrants qui essaient justement de gagner l'Europe. Donc, j'espère que nous y serons très nombreux. Et,
c'est un appel de beaucoup de mouvements.
Tout à fait. Et à l'issue de ce rassemblement, il y aura une marche organisée jusqu'à la Comédie. Donc... voilà, je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde.
Alors, 18h au Pérou.
18h au Pérou, demain soir.
Voilà, donc ça c'est important de le rappeler, dites-le autour de vous. Également, je veux faire part d'une invitation qui vient des CEMA et de l'Université Paul-Valéry, pôle des formations de l'intervention et du développement économique, social et solidaire, au Théâtre de la Vignette. Aussi, demain 18 décembre à 20h, aura lieu le spectacle « La coopérative » interprété par la compagnie « Le pas de l'oiseau ». Cette pièce de théâtre sur le monde du travail aborde la vie d'une petite entreprise avec humour et sensibilité. L'entrée est gratuite, l'inscription obligatoire pour la réservation des places. Vous pouvez bien sûr y venir à plusieurs et vous adressez à Pierre Buisson au 04 67 14 23 69.
Je peux juste faire un appel pour l'Utopia, le squat de l'Utopia, qui actuellement a eu son électricité coupée. Parce qu'ils doivent beaucoup d'argent, mais là le dernier prestataire leur a coupé l'électricité parce qu'ils doivent 2 900 euros. Donc toutes les aides sont les bienvenues. L'Utopia, c'est les anciennes archives départementales rue Proudhon. Et donc, voilà, je lance cet appel pour aider les personnes qui gèrent ce squat où il y a actuellement 270 personnes.
Alors, à qui peut-on faire appel
pour... Il n'y a pas de compte, mais je pense que le mieux, c'est de passer à l'Utopia et de demander Gwen ou Jonathan.
Gwen ou Jonathan.
Voilà.
Merci beaucoup, Françoise Dubourg. Chers auditeurs, à bientôt,
merci.
Lundi prochain.